difficulté au niveau des sectes, des vigisectes. C'était soit un non-problème, et d'autres qui confirment aussi que c'était un problème. Et on peut constater que oui, il y a des dérapages. Et nous ne voulons pas nous associer à ces dérapages. Donc quand il y a des médias qui prennent position, nous pouvons écouter les critiques, mais je vous rassure qu'aucunement notre église, notre association n'est concernée. Par contre, quand on est zélé dans cet esprit, on pourrait au contraire trouver qu'il faut faire taire ceux qui veulent parler de Dieu. Et je trouve ça dommage, parce que c'est l'autre dérapage. C'est que Dieu, il nous aime, Dieu, il a un plan pour nos vies, il veut venir se présenter à chacun de nous, et par force d'écouter, que de faire attention, on peut rentrer dans ces petits souliers en voulant se faire tout discret, tout petit, et on peut abandonner son place, sa place, son rôle dans la société, d'être celle de la terre et la lumière du monde, dans un monde qui est à la dérive. Notre rôle est d'être donc présent, d'être respectueux, d'être un bon parfum de Jésus-Christ et de Dieu auprès des autres, et d'ainsi vivre pour représenter les valeurs et la personne de Jésus-Christ. Et c'est Dieu qui habite son peuple, c'est Dieu qui se présente aux autres par son peuple. Et ça, c'est énorme. Et en cela, donc, nous ne devons pas reculer, mais au contraire, quelque part, trouver notre identité, notre rôle. Si vous voulez savoir plus sur les évangéliques, ou d'où viennent les évangéliques de façon historique, qui recadrent, donc, il y a des petites brochures sur au fond, sur la table. Pour moi, c'est tout simplement, ça revient du mot évangile. Et nous voulons tout simplement être fidèles, par la grâce de Dieu, à ce que Dieu dit dans son évangile. Évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est que Jésus-Christ est venu, nous sommes son peuple, nous voulons vivre ses valeurs, nous voulons essayer de les apprendre et aussi à les transmettre à d'autres. Parce qu'elles sont bonnes et notre société en a besoin. Donc nous ne devons pas avoir peur. Mais il est arrivé des fois où j'ai pu parler avec d'autres de ma foi en Dieu, parce que quand j'écoute les autres, parfois ils me disent leurs soucis. Et parfois ces soucis sont écrasants. Parfois il y a dans la vie assez pour retrouver un peu le nord, assez de difficultés. Et quand par compassion, par amour, par amitié, j'ai des occasions de parler de ma foi ou de Dieu, ça permettrait que d'autres, parfois, ils comprennent qu'on n'est pas seul. Nous ne sommes pas délaissés. Ce n'est pas un Dieu là-haut, peut-être, mais un Dieu qui s'était incarné et qui encore, de nouveau, vient auprès de nous et qui s'intéresse beaucoup, du près, de chacune de nos vies. Il m'est arrivé même que des fois, on se serre la main, les gens avec qui on a l'occasion de parler, parce que parfois, on a une parole d'encouragement, une parole d'espérance, une parole qui est encore, qui redresse et qui encourage. Et ça, dans un monde où souvent, on n'a que des mauvaises nouvelles, des réclamations, que c'est encourageant d'avoir quelqu'un qui a un Dieu qui a à la fois une autorité, une puissance et un amour, et qui peut aussi venir nous parler. Donc, ce matin, le thème, c'est quelque part que nous vivions et que nous puissions parler pour Dieu. Sous-entendu, Dieu, il nous donne des occasions, chacun de nous a des amis, des collègues, une famille, et quelque part, Dieu, dans son amour, comme Christ, nous sommes des petits Christ, des chrétiens, c'est ça l'origine de ce mot, il nous permet de parler, de vivre, d'agir, pour que quelque part, on voit que Dieu s'intéresse de nouveau à notre génération, à des gens autour de nous. Et c'est un honneur, aussi bien qu'un privilège. J'aimerais baser ce matin notre méditation sur Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, chapitre 10 et 11. C'est tout simplement avant la fin, et c'est là où Dieu, il recadre que parfois les choses vont se corser. Les situations vont parfois se durcir et le ton risque de se hausser parce qu'il y a des moments critiques dans la vie où tout se joue. Et c'est là, avant la fin, où Dieu ne veut pas voir des gens relâchés, sans espérance ou abattus, comme Jésus a dit, mais plutôt qu'il y a un peuple debout qui puisse dire qu'il y a encore un Dieu qui aime, un Dieu qui s'intéresse à nous, même dans des moments critiques. Et surtout ici, l'avantage de ce livre, c'est une perspective finale et éternelle, juste avant la fin. J'ai dû retaper ma douche pour la énième fois cette semaine où l'eau a déjà abîmé la peinture et ma femme est très très patiente avec moi parce qu'elle sait que je ne suis pas plombier. Jean-Pierre est venu jeter un coup d'œil et suite à sa présence et son encouragement, j'ai retrancé mes manches. Et je suis allé à l'attaque. Et il est bien, quand on commence un projet, de savoir où on va pour bien le terminer. Or, j'avais en tête, je suis allé à Castour, j'avais ma liste, j'ai su toutes les pièces PVC qu'il me fallait, et j'en achetais plus, parce que j'aime pas quand il faut tenir la pièce, courir en chercher une autre, donc j'en ai acheté tout un panier. Je reviens. Et là, je commence à faire ce travail de bricolage. J'espère que ça va être terminé. Il y avait des petites retouches à faire, comme d'habitude, mais ça s'approche de la fin. Mais la vie est plus importante encore de savoir où on va et d'avoir une bonne idée de là pour diriger sa vie, où on veut arriver, afin de ne pas tenir un morceau de sa vie et de courir quelque part et d'en chercher un autre. Et c'est là où Apocalypse nous dit l'objectif, le but. Dans ce texte, nous trouvons que le temps est court. Verset 10, chapitre 10, pardon, il y a un ange, un grand ange, qui se tient sur le bout de la terre, avec l'arc en ciel autour de sa tête, comme pour le ciel, il y a de la grâce et de l'espérance, mais sur la terre, il y a encore du soleil et comme des jambes, des colonnes de feu. Et dans sa main, verset 2, il tenait un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer et la gauche sur la terre et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion, et à son cri, les sept tonnerres furent entendus, entendre le voix. Et verset 6 à la fin, il n'y aura plus de délai, n'écris pas ces paroles. Il n'y aura plus de temps pour Jean, l'apôtre même, de les écrire. Comment comprend cette image? Que quelque part, Dieu voulait donner un sens de l'urgence à Jean. Qu'il y avait quelque part, pas le temps d'écrire. Il fallait que l'apôtre dise ces paroles qui ne prennent même pas le temps de les écrire, que Dieu voulait passer par un ange pour parler. Ce que je retire de cette image est cette notion que nous courons d'après le temps, nous avons tout pour nous économiser le temps, on peut aller avec du surgelé, on peut le passer au micro-ondes, on peut le manger, ça brûle parce que ça descend vite, on peut passer devant la télé et se faire du zapping pour passer à la chaîne suivante, mais on n'a plus de temps. On court. Mais savons-nous vraiment la mesure de notre vie et de pouvoir mettre du temps pour ce qui est important, afin de bien arriver, de bien terminer, de bien vivre sa vie. Vite, l'ange dit, voici ce livre qui est ouvert, ne prends pas le temps, ne perdez pas votre temps, mais agissez, il dit à Jean, selon ce livre. Quand je me prépare pour un voyage, j'achète des billets, je prends mes réservations bien en avance, je demande à quelqu'un de me déposer à l'aéroport, je mets pas tout de côté, bon, sauf la veille, je suis très, très terrible à cela. Et puis, quand tout est prêt, je remets tout dans la valise, je cours vers la voiture, vers quelqu'un qui m'apporte, m'amène, et puis, c'est le temps. J'ai pris du mois pour me préparer. Mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et il faut courir. Et quelque part, il arrivera que notre cœur s'arrêtera de battre. Pour chacun de nous. Et on a du temps, mais il y aura quelque temps, un moment où nos vies vont passer par un moment où on n'aura plus de temps. Et c'est là où on peut écouter ce que Dieu nous dit, le livre est ouvert, et quelque part, on peut agir sur ce que Dieu nous donne à faire. Notre temps est limité. Prenons le temps de bien poser des bases pour qu'on arrive. Et s'il y a des urgences, ou s'il y a des retards, ou s'il y a en allant vers votre destination, des accidents, des crévisons, ou laissez-vous une petite marge. Ne commencez pas à la fin pour vous préparer. Mon beau-père m'a instruit de toujours laisser la marge, le temps, d'être tranquille pour arriver, de poser les bases. De deux, l'ange tend ce livre et il dit, de cette voix forte qu'il avait entendue, verset 9, « Prends ce livre, avale-le, il remplira d'amertume les entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Et j'ai pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai, il fut dans ma bouche, doux comme du miel, mais quand je l'eus mangé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu parles, il faut que tu parles. Avant, c'est intéressant, ce livre est ouvert, mais il ne sert que quand on puisse vraiment l'assimiler. Son contenu est doux. On entend parler du pardon, qu'un Dieu infini en justice est aussi infini en grâce et en amour, et qu'il se penche vers nous, il nous pardonne, il nous relève, il fait de nous des enfants. Et selon la parole de Paul, le fils prodigue, il se jette sur notre cou et nous embrasse comme ses enfants qui reviennent vers lui. Et ses paroles sont douces, ces paroles qui nous parlent de cet amour qui ne change pas. Ou encore de ce pardon qui efface tout, ou encore que nous sommes passés de la mort à la vie, ceux qui mettent leur espérance en Jésus-Christ parce qu'il est déjà passé de la mort éternelle à la vie éternelle. Ces paroles sont douces. Elles nous encouragent. Elles nous fortifient. Elles nous rapprochent de Dieu. Elles nous parlent de Dieu. Mais il y a d'autres paroles qui me dérangent personnellement et je crois qu'on est en bonne compagnie. Ou parfois, Dieu part sur sa grâce, mais dit, Bob, ce que tu fais change. Et quand j'essaie, je me débatte et je lutte avec moi-même. Et quand j'essaie, je constate que il y a une lutte énorme qui demande tout notre effort de changer, d'être transformé à l'image de Jésus-Christ. Ça tire vers le haut. Et quand on se débat avec Dieu, on dit, oh là, c'est pas évident. Mais quelque part, on voit que Dieu, dans sa grâce, dans son amour du Père, il arrive à nous changer, à nous transformer, à nous donner des moyens. Mais quelque part, ses paroles sont aussi dérangeantes. Difficiles parfois. Quand on les regarde à prime abord, on se dit, oh là là, aimez vos ennemis. Ne convoitez pas. Soyez reconnaissants en toutes choses. Il y a ce qui dérange. Il y a ce qui pourrait aussi, au fond de nous-mêmes, être à prime abord, amer. Et on peut vouloir dire avec Dieu, avec beaucoup dans ce monde, on peut vouloir dire, ben je ne pense pas. On verra ça. Et la réponse de l'ange, de l'interlocuteur avec Jean, c'est « mange-le !» Et quelque part, quand on ne fait soit pas un auditeur oublieux, que « ouais, on verra, c'est intéressant ça, c'est un peu comme l'horoscope de « ouais, c'est quand même, ça m'a fait un peu rire des choses, c'est intéressant !» Et Dieu nous dit « non, mange-le !» Approprie-le, assimile-le. Car il nous a dit dimanche passé que lui-même, il mange la parole de Dieu. Bon, que chaque dimanche, ou chaque jour plutôt, il se lève et il a ce temps avec Dieu, où Dieu lui-même s'explique et Dieu lui-même le nourrit, le fortifie. Lui parle par cette parole. Et ça, les amis, c'est la façon où nous sommes vraiment nourris. Il y avait une jeune femme japonaise qui a dit, c'est comme si j'ai deux estomacs, deux ventres. Je mange déjà mon bol de riz, mais si je ne mange pas, ou si ce que Dieu m'a dit, il y a un creux, il y a un vide spirituel dans ma vie. Que seul Dieu puisse remplir. Et l'ange a dit, mange-le. Elle sera parfois douce, qui nous encourage, et parfois, elle sera aussi un peu amère, parce qu'elle parle des choses difficiles, ou elle nous demande de faire des choses que naturellement, on peut refuser de faire. Comme aimer. Ou encore, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière, faites connaître à Dieu vos requêtes. Alors, d'habitude, on peut se dire, bah, moi, je m'en charge. Et puis, on se fait des soucis, et puis on part pour essayer de laisser ses soucis, mais Dieu dit, laisse-lui ses soucis. Et quelque part, Dieu, il nous dérange. Dans nos habitudes, d'autrefois, parce qu'il tire vers le haut. Et il veut qu'on largue un peu ce qui nous retient. Mange-le, il nous dit. Or, de façon pratique, pour le prix, c'est gratuit, sur la table. Évangile de Luc. Pour le prix d'un café, un Nouveau Testament, ils sont sur la table, au fond. Pour le prix de deux cafés, toute la Bible. Bon, c'est plus de cafés à 6 euros. Notre pain quotidien, mais qui donne des réflexions qui prennent la parole et essayent d'expliquer pour nos jours. J'avais un ami, Eli, qui m'a dit cette semaine, il a dit, c'était super. J'ai lu des choses qui m'ont expliqué des choses qui étaient plus claires que ce que j'ai lu. Donc, le prix de quelques repas spirituels. Ou encore, sur la petite table à gauche, si vous voulez connaître quelques versets clés dans votre vie qui peuvent vous orienter, qui parlent du pardon, ou qui parlent que nous sommes accueillis par Dieu, ou qui parlent du rôle des uns et des autres dans sa vie. Des versets pour nous cibler, pour nous aider, ça peut se découper sur le fond à gauche. On peut donc manger. Pourquoi se priver d'un bon repas, d'être bien nourri par Dieu? Pas simplement ça se mange, mais ça s'arrose. Dieu dit, en chapitre 11, les versets 3 à 6, qui donne son esprit comme de l'huile d'olive, comme d'huile, pour nous fortifier, pour guérir, pour oindre nos vies, pour panser les blessures. Et là, il dit au verset 3 et 4, qui met comme deux oliviers, des personnes qui peuvent parler de lui, ou qui peuvent agir, qui peuvent prier pour d'autres, parce qu'on veut que d'autres découvrent ce Dieu, mais que ces deux témoins sont revêtus de sacs, symbole du deuil, symbole de la détresse, pendant les moments difficiles. On peut manger ce que Dieu nous donne. Il nous offre un livre ouvert. Et quand on la mange, on le trouvera doux et parfois amer, mais Dieu, il fera de sorte que nos passions, que nos vies soient transformées à la fois lui plaire et à la fois être une vie digne d'être vécu et forte, même dans les moments difficiles. Et puis, il dit, je donne mon esprit, comme à ces deux témoins. Ces deux esprits qui sont comme deux chandeliers, symbole de la présence de Dieu, symbole de l'huile qu'on mettait, que Dieu y sera avec ces personnes. Ou comme deux oliviers, pas des petits olives du marché, mais deux oliviers qui sont enracinés en Dieu et qui sont forts pour que Dieu lui-même il soit présent. Il donne un fruit, il donne sa grâce, sa présence à d'autres, à beaucoup d'autres. Il cite deux noms un peu drôles, un peu difficiles, Zorobabel. Mais ça, c'était quelqu'un que lors de l'exil, est-il chargé pour reconstruire le temple qui était brûlé et détruit par Nebuchadnezzar à Jérusalem. Et 70 ans plus tard, il avait au cœur de pouvoir remettre un lieu où Dieu serait adoré, où on peut encore trouver Dieu, même quand il y a des ruines. Dieu donne son esprit pour nous fortifier, pour mettre de l'huile dans nos vies, qui guérit, qui fortifie, qui nous rend notre vie souple, qui ne se casse pas, mais qui est vivante par sa présence, par son esprit. Il le donne à chaque personne qui s'ouvre, qui le reçoit, qui lui permet de venir prendre place dans sa vie. Et c'est pas simplement cette parole qu'on assimile, mais c'est aussi sa présence qui transforme, qui guérit. Ce n'est pas à nous, cette vie. C'est Christ en nous, par son esprit, l'image de cette huile qui guérit et qui vit en nous, qui nous libère et permet que nous soyons comme des lumières, un chandelier, ou comme des oliviers pour d'autres personnes, là où Dieu nous a placés. Pas des branches mortes, pas des feuilles par terre, mais dans un monde où parfois ça tombe, Dieu veut, il crée en nous cette vie de l'intérieur, image de son esprit, par cette huile, qui guérit, qui remplit, qui lui, là où il y a ténèbres, là où il y a difficultés, même dans les moments difficiles, à lui permettre donc d'agir, d'entrer complètement dans nos attitudes, dans nos vies, de prendre temps avec Dieu, de venir ici, parce que Jésus-Christ a dit, là où deux ou trois se rassemblent en mon nom, j'y serai. Et notre objectif, c'est que Dieu soit parmi nous, qu'il puisse guérir, qu'il puisse bénir, qu'il puisse donner cette vie en abondance, que nous la vivions toute la semaine, ou de se retrouver aussi en groupe, le mercredi, ou le mardi, ou dans les foyers, pour pouvoir se permettre de s'encourager mutuellement, qu'on grandisse, qu'on approfondisse, qu'on soit capable de briller. Une présence aussi personnelle devant Dieu, de ce soir avec cette face à face. Jésus a dit, quand vous priez, entrez dans votre chambre. Et le mot technique est la petite cabane où on sèche les poissons. Ce n'était pas très élégant. Entre là, fermez la porte, et là, parlez. Parce que Dieu veut nous rencontrer, il veut nous parler. Il veut nous toucher, il veut nous changer, nous purifier, nous vivifier, nous réanimer. Et donc il nous demande un vis-à-vis avec lui. Avec le Dieu de l'univers, riche en grâce, infini en amour et en justice, pour nous changer. Voilà, à l'image de Jésus-Christ. Et c'est là où cette huile de l'esprit nous transforme, nous change et est présente dans nos vies, dans ses vis-à-vis avec Dieu. Et finalement, dans ce chapitre, nous voyons que ces deux témoins auront une opposition par ceux qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, par ceux qui préfèrent qu'ils se taisent, ceux qui veulent les marginaliser, et finalement, après 3 ans et demi de ministère, on les tue, verset 7 du chapitre 11. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête, image, qui monte de l'abîme, leur fera la guerre, les vaincra, les tuera, et leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome, Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Et les hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront le cadavre pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas qu'on mette le cadavre dans une tombe. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Par leur parole, par leur présence, qui dérangeait. Et quand Dieu nous dérange, c'est aussi parce qu'il nous aime. Il ne veut pas nous laisser aller à la dérive. Il veut venir nous chercher, nous tirer vers lui, nous parler de son amour, de son pardon, et nous faire appel pour qu'on fasse demi-tour. On peut répondre oui, on peut entrer dans ce qui nourrit nos âmes. On peut entrer dans cette vie spirituelle de son esprit, où il se donne à nous, par sa présence, ou, comme d'autres qui peuvent essayer d'opprimer, de faire taire, de mettre pression, de façon discrète ou parfois ouverte. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de leur foi. Et j'imagine que si vous pouvez passer aussi par une certaine ridicule, un certain mépris, parce que le monde en veut parfois à un Dieu qui dérange, qui ne laisse pas libre, mais qui veut ramener pour faire ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est bien, et qui veut transformer, qui veut changer. Et parfois, on ne le veut pas. Et c'est là où on peut essayer de faire taire, et c'est ici carrément on les tue, ces deux personnes qui sont des témoins dans des temps extrêmement difficiles, mais Dieu se sert d'eux, il parle. Ils ont une certaine puissance même pour agir. Christ a laissé une puissance pour vivre. Ce n'est pas nous, c'est le Christ en nous, c'est son esprit. Par son huile, cette huile que nous venons de décrire. Et ce qui donnait par cette présence est une puissance pour aimer. Aimez vos ennemis, la Bible dit. Soyez unis. Et quand le monde voit qu'au lieu de se critiquer, qu'on tende vers une unité qui dépasse des origines, des langues, et qu'on se retrouve plutôt unis comme un peuple dans une famille avec un père, le monde peut voir que Dieu est là, ce qu'a dit Jésus-Christ. Et finalement, nous avons une puissance aussi pour demander à Dieu de bénir, de guérir, comme nous avons entendu et comme nous prions pour les libres, pour que Dieu le fasse. Nous ne savons pas ce que Dieu fera, mais nous nous attelons à Jésus-Christ qui est guéri tant de malades pour qu'il agisse. Et nous n'avons que ça comme puissance. Mais quelque part, Christ estime que cette puissance est suffisante pour pouvoir démontrer qu'il est présent, qu'il est là, qu'il aime, qu'il transforme nos vies égoïstes, méchantes, à des personnes qui ressemblent à Jésus-Christ, humble et doux, qui s'était donné pour ce monde, pour nous. Et dans cette opposition, le monde, animé par un esprit qui se posait à Dieu, les tue, parce que leur temps était terminé. Pas parce que le monde a le pouvoir, mais parce que Dieu a dit, c'est le temps. Et le monde qui va avoir la fin, nos vies aussi, nous avons un ministère, nous avons un rôle à jouer, ici-bas, pour aider d'autres, pour être lumière dans ce monde et celle de la terre pour vivre humblement, avec respect auprès des autres, pour parler et agir comme Jésus-Christ, afin que d'autres voient, d'autres entendent parler et d'autres puissent voir par nos vies, par notre unité, par notre amour que Dieu est là. Et puis ceci se tourner parce que le monde va aussi vers Dieu dans le temps. Ils sont si contents qu'on se donne des cadeaux. Ces prophètes, ils sont morts, on va chanter et et ça s'éclate. Et quelque part, il y en a autour qui veulent. Parce qu'on est animé par un esprit qui ne veut pas venir vers Dieu. On veut plutôt s'opposer à ceux qui osent vivre pour plaire à Dieu, dans la droiture. Et vous savez, de par vos collègues, si vous vivez dans la droiture, parfois on va vous mettre, on va regarder de mauvais oeil. Et donc, Mais tenons ferme. Parce que bien que on puisse vous en vouloir, nous en vouloir, Dieu ressuscite ses prophètes, et 3 jours et demi après, tout le monde voit qu'ils sont debout dans les versets 11 et 12 qui suivent. Et pour votre vie, si vous avez pris cette position, vous identifiez à Jésus-Christ. Et si on se moque de vous, sachant que déjà les temps sont dans la main de Dieu, pas dans le monde de ce monde, et que Dieu a le pouvoir aussi de vous garder, comme il mesure le temple pour le protéger, ou comme il donne à la vie de ses prophètes de rester, ou comme il donne, même quand il tombe, à les relever. Et si votre vie est cachée en Dieu, c'est elle, c'est là seule où vous trouverez la sécurité. Et le bon à manger, spirituel, et aussi l'huile qui guérit et qui anime et qui nous fait vivre, même dans les moments difficiles. Et le septième ange, au verset 15, sonne la trompette et les voix fortes retentirent en disant « Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ, il régnera au siècle des siècles. » Verset 16. Et les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur le trône tombèrent la face contre terre et adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, d'avoir saisi ta grande puissance, d'avoir établi ton règne. Les nations s'étaient irritées, ta colère est venue, et ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Verset 19. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et c'est la fin. Et l'éternité commence. Et là, nous vivrons avec ce Dieu pour l'éternité, dans son royaume, où déjà plusieurs parmi nous, la plupart d'entre nous, avons déjà commencé à expérimenter son règne, qui transforme par ce livre ouvert, parce que nous le mangeons, nous prenons le temps de méditer, de l'apprendre, de l'écouter, et aussi par son esprit qui nous réunit, qui nous rejoint, qui transforme nos vies personnelles et collectives. Le temps est court. Le temps n'est pas éternel ici-bas. Le temps est court pour que les uns et les autres entendent, voient Jésus-Christ et son message du règne qui change, qui délivre. Mange ce livre. Assimilons-le. Peut-être que ce matin, on a entendu de nouveau des choses difficiles à entendre. Dieu nous invite à les laisser passer, à les assimiler dans nos vies. Par sa puissance, par sa présence en nous, par Jésus-Christ, qui a le moyen de transformer nos vies pour devenir quelque chose qui plaise à Dieu et une vie qui vaille le coup d'être vécue. Et puis finalement, face parfois à une résistance de ceux qui ne comprennent pas parce que ce n'est pas encore l'heure ou parce que simplement on s'oppose. Comme de l'homme naturel qui ne connaît pas Dieu, qui pourrait être en rébellion à Dieu et qui pourrait au contraire avoir besoin d'être réconcilié avec ce Dieu.